C'est parti. Alors mes amis, je suis obligé de faire cette intervention avant la vidéo pour pouvoir me protéger. Me protéger de quoi? Comme vous le savez, ce podcast a déjà fait l'objet d'attaques, de tentatives de censure. Et là, ça risque d'être le cas. Donc j'aimerais bien être précis avec ce qui va être diffusé dans cet épisode. Les extraits qui ont été utilisés pour cet épisode le sont dans le cadre de la loi, je ne me souviens plus le numéro 537, 538, point, article, je ne sais plus quoi, du code pénal, de l'exception au droit d'auteur. Alors là, vous entendez les chiens parce que c'est période de chasse. Donc, je veux éviter qu'on me chasse à moi aussi. Donc, les extraits qui vont être utilisés le sont en vertu de l'article machin-chose du code pénal et de l'exception au droit d'auteur qui permet d'utiliser des courts extraits, hein, donc pas l'entièreté d'une œuvre, et de l'intégrer à une argumentation, à un documentaire, par exemple, à une enquête, afin de prouver ce que l'on avance, parce que sinon on parlerait un peu dans le vide. Il s'agit d'un montage, en plus, avec des vidéos qui sont remaniées, un tout petit peu légèrement accélérées, et puis le cadrage n'est pas le même, donc il n'y a pas d'atteinte aux droits d'auteur. YouTube applique aussi cette législation sous le terme de « d'usage loyal ». La législation demande d'ailleurs que ces extraits soient cités et sourcés, et vous retrouverez tout ça dans la description de cet épisode, bien entendu. L'objet de cette vidéo, c'est de vous montrer comment ces deux personnalités, elles avancent leur message, et comment elles ont chacune transformé un concept qui était déjà foireux à la base en un concept totalement anxiogène pour des gens qui se croient, qui se pensent surdoués, alors qu'en réalité, le message vise des personnes fragiles, des personnes vulnérables, fragiles psychologiquement. Et cet épisode va vous expliquer tout ça. Bon, ben, tant qu'à faire, on fait aussi la présentation en plein air. Alors donc, bienvenue sur Intensément Podcast, comme vous le savez, le média unique en son genre qui explore l'univers des HPI au potentiel intellectuel, neuroatypique et compagnie, à la recherche de l'info la plus fiable possible. Et cet épisode n'aurait jamais pu exister sans l'aide, sans la contribution de toutes les donatrices et donateurs que je remercie intensément, puisque vous le savez, le financement participatif est le financement de ce média, et je vous demande s'il vous plaît, d'aider ce média et de contribuer à mon travail à sa juste valeur. Merci intensément. Bienvenue sur le vaisseau spécial. Nous commençons donc avec 3 minutes d'élucubration sur les pervers narcissiques et les surdoués, sachant que aucune des argumentations ou des thèses avancées par ces deux personnalités n'a de fondement ni n'est validée ou reconnue par les communautés psychologiques, psychiatriques et scientifiques. C'est parti, enjoy.
Un sujet qui fait qu'on retrouve les surdoués ensemble. C'est malheureusement encore l'histoire du pervers.
Et donc, à force de côtoyer les victimes de manipulateurs, j'ai pu aussi dresser leur portrait robot, comme dans un premier temps j'ai dressé le portrait robot du manipulateur, je vous ai dit, extrêmement standard, etc. Je me suis rendu compte que les victimes de manipulateurs avaient aussi des caractéristiques communes, et que ces caractéristiques communes pouvaient se résumer sous l'appellation du fait que ce sont des gens qui pensent trop.
Quand il rencontre un pervers qui ferait office de père, c'est-à-dire dans un monde extérieur de la symbiose, ça le sécurise de se faire croire qu'il peut se défaire de cette symbiose pour être libre.
Et ils le disent eux-mêmes, je pense trop, dans ma tête ça s'arrête jamais, je suis tout en train de me poser des questions, de me remettre en cause, d'avoir des doutes, et puis je suis trop sensible, je suis trop émotif, je suis trop empathique, je prends trop soin des autres, etc.
A contrario, le pervers qui n'a pas la mémoire de cette symbiose va se mettre avec le surdoué pour retrouver cet état symbiotique et encercler, comme le monde de la mer, le surdoué. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que c'est clair dans vos esprits?
Et donc voilà, c'est un paradoxe, ces gens qui pensent trop, ces gens qui sont donc plutôt plus intelligents que la moyenne, eh bien se retrouvent plus manipulables aussi.
Et c'est là-dessus que vous êtes en permanence confronté quand vous recherchez, moi aussi, la relation surdoué-pervers. Surdoué-pervers, ensemble, le pervers va reconstruire autour de nous, en nous encerclant le monde de la mer et symbiotiser avec nous. On est dans la représentation symbolique.
Quand on pense trop, quand on se pose trop de questions, quand on est quelqu'un qui accepte de douter et le doute est indissociable de l'intelligence. Quand je suis intelligent, je me pose des questions, je me remets en cause, j'essaye de comprendre, j'essaye de trouver des solutions.
Étant psychanalyste, si on reprend les données psychanalytiques, qui consistent, en reprenant Lacan, à être dans le monde de la mère symboliquement, c'est-à-dire Lacan reprend dans la symbolique la Vierge Marie et son enfant, qui sont en symbiose, on peut considérer que le surdoué, mémorise cette symbiose. Le surdoué reste dans la symbiose.
Et surtout, quand je suis intelligent, je ne conçois pas la malveillance gratuite. Ces gens qui pensent trop et qui sont donc plus intelligents que la moyenne se font finalement manipuler par leur intelligence.
Et plus tard, enfin dans cette symbiose, c'est le père qui protège la symbiose mère-enfant. Le père n'est pas en symbiose, généralement. Dans la symbolique, la maman et l'enfant sont en symbiose. La maman va sortir du monde de la mère, exceptionnellement pour le surdoué, je veux dire uniquement dans le cas du surdoué. Et l'enfant va grandir, mais en fonctionnant dans ce principe symbiotique.
Parce que ils acceptent trop de se remettre en cause, ils acceptent trop d'essayer de comprendre la personne en face, mais ils essayent de comprendre avec des critères trop intelligents, puisque la bêtise de cette malveillance, cette immaturité ne les effleure même pas. Et c'est comme ça que voilà, ils se font manipuler.
C'est difficile pour moi de vous expliquer ça, mais le surdoué.
Les gens qui pensent trop ont des caractéristiques neurologiques particulières. Ce sont des gens qui, au niveau cérébral, sont atypiques. Ils ont par exemple les cinq sens beaucoup plus développés que la moyenne. C'est des gens qui sont dans un état d'alerte, de sensorialité exacerbée. On va dire, ils ont plus le sens du détail, ils sont plus vite gênés par le bruit, etc. Ils sont très, très aux aguets dans leur façon de capter le monde.
Le surdoué a-t-il vraiment besoin d'une personne dite perverse, ou pervers narcissique, ou pervers manipulateur, ou pervers tout court, pour vivre, pour se vivre, pour être bien dans sa vie?
Ce sont des gens qui ont une pensée complexe, arborescente. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont une pensée, une idée, en amène 10, qui en amène 10, qui en amène 10, dans une espèce de structure complexe où tout est connecté avec tout. Donc c'est une façon de penser qui est différente de la majorité. Il faut savoir que la plupart des gens pensent un peu, je vais dire encore d'un nœud, une idée après l'autre, après l'autre, après l'autre, dans des trains de pensée bien rangés, bien alignés. Eux, c'est très foisonnant et ça part dans tous les sens. Et que les manipulateurs savent utiliser justement cette foisonnance mentale pour aller mettre la pagaille dans cette structure complexe.
Et ben, de la même façon, le surdoué, dans ses émotions, dans son incompréhension du monde, qui est le monde est quand même cartésien, la Terre est terre à terre, le surdoué, oui, bien sûr que oui, il va avoir besoin d'une personne cartésienne qui lui dit ce qu'il a envie d'entendre. On revient toujours à la même chose. Qui lui dit, voilà, tu es belle, tu es ci.
Et c'est comme ça que petit à petit, ils vont rendre la personne qui pense trop complètement cinglée, parce qu'il y a des données qu'elle ne comprend pas, qu'elle ne peut pas intégrer dans sa structure, il y a des contradictions. Mais le mensonge est quelque chose qu'elles ne pratiquent pas, donc elles ont du mal à comprendre. C'est tellement plus simple de dire les choses comme elles sont plutôt que d'aller mentir, faire des trucs tordus. Donc comme ça, je me suis rendu compte qu'il y avait une incroyable complémentarité entre les deux fonctionnements, le fonctionnement des gens qui pensent trop et qui ont cette pensée complexe arborescente, et le fonctionnement des manipulateurs. Parce qu'en fait, ce sont des gens qui sont sur le même territoire, mais avec des cartes mentales opposées.
Et oui, vous les avez reconnus, le couple maudit, le duo maudit, pardon, excusez-moi. Celles qui ont influencé toute une génération, plusieurs générations même, de désinformatrices, de désinformateurs, de confusionnistes, de mythes, de légendes, d'affabulation totale sur les HPI et les surdoués. Vous les avez reconnus, ce sont Christelle Petit-Collin et Raymond Hazan. Ce sont elles les gagnantes, ce sont elles qui sont coupables de la diffusion du mythe selon lequel les surdoués, HPI au potentiel intellectuel, seraient les proies désignées des pervers narcissiques qui les attendraient dans chaque coin de rue pour leur sauter dessus parce que ça sent le surdoué ici.
Les surdoués sont à moi.
Les amis IES, dans le premier épisode, je vous avais lâché lâchement en plein suspense. Et j'espère que vous avez regardé l'épisode précédent pour comprendre avec nous que si la notion de pervers narcissique est une notion psychanalytique sans fondement, floue et hautement controversée, il n'empêche qu'elle peut évidemment faire penser à d'autres notions qui, elles, sont vachement moins floues et vachement moins foireuses. En particulier, une combinaison du trouble de la personnalité narcissique et du trouble de la personnalité antisociale, ou du narcissisme malveillant, ou de la notion de psychopathe. Enfin, une combinaison de tout ça. Et puis surtout, cette notion, ce concept de pervers narcissique avait pris une place dans l'imaginaire collectif de nos jours, une énorme place, puisque le pervers narcissique, c'est devenu un bon moyen d'accuser l'autre d'être le responsable de nos propres problèmes. Quelle que soit sa définition, ce qui est nécessaire dans cette définition du pervers narcissique, c'est la victime, qui deviendrait son complice dans un jeu malsain ou pervers, si vous y tenez. Le jeu psychanalytique.
Ce que vous appelez, c'est sa victime, mais ce que vous dites, son complice, effectivement complice inconsciente, bien évidemment, donc on a compris, les victimes ne sont pas choisies par hasard.
Et vous allez voir, alors ça va être plutôt amusant si on veut, parce que je vais m'appuyer sur un personnage dont je vous ai parlé dans l'épisode précédent, à savoir carrément, non pas Racamier qui a créé la notion de perversion narcissique, mais Alberto Ege qui a le premier utilisé le terme de pervers narcissique pour décrire à la fois le pervers narcissique et sa victime, qu'il a désigné comme complice dans son livre « Le pervers narcissique et son complice ». Et oui, parce que tant qu'à démonter des balivernes et des billevesées, autant utiliser les personnes mêmes qui ont créé ce concept, même si on n'y croit pas, Christelle Petit-Collin, Raymond Dazan et leur public y croient et s'appuient sur ce concept. Ce brave Alberto, dont j'ai montré la semaine dernière les côtés sombres lorsqu'il parle en langage psychanalytique abscon pour les adeptes, mais qui, dans une interview, nous fait aisément comprendre qui serait le pervers narcissique et qui seraient ses victimes et pourquoi il les appelle ses complices. Dans la légende, la première légende, celle du pervers narcissique, on a donc compris qu'il y a un personnage séduisant, sûr de lui, qui va exercer dans une emprise sur une personne une force parce que la personne serait techniquement plus faible. Il y aurait une sorte de jeu de chat et de la souris, puisque c'est ça la force de la psychanalyse, la victime de ce pervers narcissique jouerait elle aussi à un jeu pervers, puisqu'elle se laisserait quelque part dominer, parce qu'il lui manquerait quelque chose, un trou, un vide de mère, un vide de père, un phallus retourné, inversé de la matrice anale, du symbole du père, de l'inceste, de la mère, avec le phallus anal, enfin bref, vous secouez tout ça, et puis vous sortez les trucs au hasard, et vous avez un concept psychanalytique. Le problème, le truc le plus incroyable dans toute cette histoire, c'est que quels que soient les textes que vous regardez sur l'invention du concept de pervers narcissique, à aucun moment il n'est question de surdoué, encore moins de haut potentiel intellectuel, ni même de profil type de la victime qui se rapprocherait de quelqu'un qui aurait une intelligence supérieure, ni même une intelligence émotionnelle spéciale ou un truc comme ça. Il n'y a rien de tout ça, malgré tout le fatras de cette notion. Au contraire, selon Alberto Ege, on comprend facilement que autant le pervers narcissique est séduisant, sûr de lui, plutôt intelligent, autant la victime est évidemment probablement dans une situation de fragilité, de faiblesse psychologique, voire plus si affinité.
Il est séduisant, il peut éventuellement être mystificateur, il essaie d'envelopper les autres. Tout cela constitue un filet dans lequel entre l'autre. L'autre est un prisonnier, c'est pour ça qu'on parle d'emprise. Et on parle aussi des prédations morales. Alors, vous direz, comment il y a des gens qui y entrent? On y entre souvent parce que les personnes qui sont ces victimes ont une faiblesse quelque part. Ils viennent de subir, par exemple, une déception importante dans leur vie, une perte de statut. Ils vivent la perte d'être cher. Donc, ils sont particulièrement sensibles à ces genres de... Ce sont aussi, dans beaucoup de situations, des gens qui ont quelques troubles de la pensée et que et la logique qui exprime la rhétorique du pervers narcissique les séduit énormément.
Tout au plus, imagine-t-on que le pervers narcissique aurait besoin de mettre à profit une certaine intelligence émotionnelle pour comprendre l'autre, une certaine domination intellectuelle sur l'autre, mais bon, ça passe pas forcément par le quotient intellectuel ni par l'intelligence en général. Dans aucun des textes des pionniers de toutes ces théories, on ne trouve mention du fait que la cible privilégiée des pervers narcissiques serait les surdoués ou les hauts potentiels intellectuels. Ou même pire, que le haut potentiel intellectuel ou surdoué serait attiré par le pervers narcissique. Après avoir longtemps cherché sur internet, il s'avère qu'il n'y a aucune mention du rapport entre pervers narcissique et surdoué avant aux alentours de 2010. Dans l'espace francophone, et je dis bien dans l'espace francophone parce que comme vous avez vu ou écouté le premier épisode, vous savez que le concept de pervers narcissique n'existe que dans l'espace francophone. Et donc si vous faites une recherche en anglais, ben vous ne trouverez absolument rien. Il n'y a non seulement pas de pervers narcissique, mais en plus il ne chasse pas le surdoué, c'est quand même incroyable. Ça ne serait qu'en France, tout comme la Transylvanie serait le pays des vampires, la France serait le pays des pervers narcissiques qui chasseraient le surdoué. Mais non seulement il ne chasserait pas le surdoué ailleurs qu'en France, mais en plus il chasserait le surdoué qu'à partir de 2010. Ben c'est quand même chelou. Comme vous le savez, ce podcast, ce média, a enquêté très longuement, depuis plus de 3 ans, sur les responsables de toutes ces mythes et légendes sur les surdoués, sur les HPI. Alors, je vous ai expliqué comment on est arrivé petit à petit à la pathologisation du HPI dans l'épisode sur la pathologisation du HPI. Et avec le tournant des années 2000, il y a l'arrivée de Gianzio Fascin et de son concept de zèbre. Premier courant principal de confusionnisme ou de désinformation, puisqu'avec son premier livre en 2002, puis Trop intelligent pour être heureux, son livre phare en 2008, ça a lancé non seulement le phénomène zèbre, mais en plus le phénomène donc de surdoué zèbre HPI chez les adultes. Et c'est le top départ de tout un tas d'auto-identifications à partir de symptômes qui pour certains ne sont pas spécifiques au potentiel intellectuel et les autres symptômes ne sont carrément pas du tout en lien avec le haut potentiel intellectuel mais permettent à des milliers et des milliers de personnes de s'auto-diagnostiquer zèbre, c'est-à-dire dans leur tête surdoué, à partir d'un profil spécifique axé sur le décalage, la souffrance psychologique, la pensée en arborescence, le neuromythe du cerveau droit plus développé, l'hypersensibilité, l'empathie, le sens de la justice hyper développé, etc., etc. Vous connaissez la plupart de ces mythes qui n'ont aucun fondement scientifique. Mais malgré tous les défauts du concept de zèbre, Gianzio Fascin n'a jamais parlé à aucun moment de pervers narcissique, ni de faiblesse spécifique des surdoués ou des hauts potentiels intellectuels vis-à-vis d'une quelconque emprise. Et pour Gianzio Fascin, la mesure du quotient intellectuel doit être supérieure et c'est primordial pour faire de quelqu'un un haut potentiel intellectuel ou un zèbre. Et dans la lignée de Gianzio Fascin, la plupart des thèses des psychologues ou des psychiatres qui ont plus ou moins adopté cette vision du surdoué ne parlent pas de pervers narcissique. Ce n'est donc pas Gianzio Fascin et pas toutes ces personnes-là. En 2003, sort un livre vachement plus intimiste, on va dire, qui a fait beaucoup moins de bruit que le livre de Gianzio Fascin, Vogel les psys, de la psychanalyste autoproclamée Raymonde Hazan, dans lequel notre chère Raymonde explique comment elle a été trompée, abusée psychologiquement et physiquement par les psychanalystes qui se sont occupés d'elle. À cette époque, elle ne sait pas qu'elle va bientôt s'auto-identifier surdouée. Son identité, en 2003, c'est agoraphobe névrosée. Et fidèle à elle-même, et vous pouvez voir ça dans le documentaire HPE Révélation, la face sombre du surdoué de Raymonde Hazan, produit par ce podcast même, elle décide que tous les agoraphobes ont exactement le même profil, c'est-à-dire le sien. Et dans son livre, Raymonde Hazan affirme que tous les agoraphobes sont les proies désignées des pervers manipulateurs. C'était une de ses obsessions dans ce livre. En 2007, Christelle Petit-Collin, coach en communication, uniquement, comme Raymonde Hazan, aucune formation psychologique, aucune formation psychiatrique, Christelle Petit-Collin, coach en communication, sent son premier filon avec les manipulateurs et écrit un livre qui s'appelle « Échapper aux manipulateurs », dans lequel elle développe, elle aussi, son obsession pour les pervers manipulateurs. En 2010, Christelle Petit-Collin flaire un deuxième filon, encore plus lucratif. Reprendre le concept de zèbre, enlever cette histoire de quotient intellectuel, mélanger les personnes intelligentes avec toutes les personnes souffrant de troubles psychiatriques ou psychologiques pour n'en faire qu'une seule, rajouter une grosse pincée de New Age, diviser l'humanité en deux, d'un côté les suréfficients, entre parenthèses les surdoués, des sortes de bisounours New Age, et de l'autre côté les normopensants, qui auraient une forme de pensée linéaire, qui sont évidemment jaloux des surdoués qu'ils ne comprennent pas. Et vous pouvez mieux comprendre tout ce processus dans l'épisode qui s'appelle « Je pense trop », le best-seller de Christelle Petit-Collin à l'origine de discrimination. Les normopensants, que donc Christelle Petit-Collin a inventé, ça faisait un premier ennemi. Mais elle y rajoute un deuxième ennemi, le pervers narcissique. Et en réalité, c'est Christelle Petit-Collin, la première, qui a fait le lien entre pervers narcissique et surdoué, au potentiel intellectuel, suréfficient, comme vous voulez les appeler. Pour elle, il est évident que les surdoués, donc qu'elle appelle suréfficients, sont les cibles privilégiées des pervers narcissiques. Avec Christelle Petit-Collin, on passe de ce surdoué devenu une entité à partir du zèbre, une entité extraordinaire, en décalage, en souffrance, on passe de cette notion à une notion de peur. Un être différent qui doit potentiellement se méfier de tout le monde, des normopensants, des pervers narcissiques, de la société. Entre-temps, Raymonde Hazan, elle, est devenue par magie surdouée. Sans test, évidemment, elle aussi. Elle sort son premier livre sur les surdoués qui s'appelle « Le secret du surdoué ». Et elle commence sa carrière de pseudo-gourou New Age psychanalytique proposant un concept repris presque trait pour trait aux zèbres. Mais si avec Christelle Petit-Collin, le danger n'est jamais très loin, avec Raymond Dazan, le danger est partout. Chez Raymond Dazan, cette peur des normaux pensants, cette peur des pervers narcissiques va se transformer en angoisse. La même obsession qu'elle avait en 2003 se reporte sur sa nouvelle identité de surdouée. Le discours est 100% anxiogène et clivant. Et non seulement les normaux pensants oppriment les surdoués et veulent les détruire, mais tout comme les pervers narcissiques traquent les surdoués ne peuvent se passer des pervers narcissiques. Les deux semblent à l'opposé l'une de l'autre, a priori. Le discours de Raymond Dazan, qui est de la psychanalyse de cuisine survoltée, est aussi absurde qu'anxiogène. Le discours de Christelle Petit-Collin paraît, lui, plus posé, plus abordable. C'est du développement perso, simpliste et racoleur, enrobé d'un marketing efficace. Mais en réalité, les deux discours sont sur la même longueur d'onde. Ce sont les mêmes et visent les mêmes cibles. Les deux font autant de généralisations abusives et d'amalgames racoleurs sur les mêmes sujets. L'appel au New Age, rejet de la psychologie, concept pseudo-scientifique. Mieux encore, pour les deux, les surdoués ne peuvent être mauvais. Ils ne connaissent ni le mal, ni le mensonge, ni le monde cartésien d'ailleurs. Ce sont littéralement des êtres de lumière. Qui ne voudrait pas être bon, juste et lumineux dans cette société de normaux pensants sanguinaires? Et donc, je vous rappelle un truc essentiel. Aucune de ces deux personnalités ne parle en réalité de surdoués. Ce qu'elles appellent une personne surdouée, ce sont les personnes fragiles, submergées par leurs émotions, souffrant de troubles et pathologies diverses, mais refusant de les nommer telles qu'elles sont, des troubles psychiatriques et psychologiques, comme par exemple des dépressions, des troubles autistiques, des TDAH ou des traumatismes. Pour Christelle Petit-Collin, comme pour Raymond Dazan, leur cible, ce sont les personnes en détresse, qui ne savent pas s'en sortir dans ce monde, et que l'une appelle suréfficient, et prétend que ces personnes-là sont plus intelligentes que les autres, sans test évidemment, et que l'autre appelle surdoué ou HPE et prétend que ces personnes-là sont plus intelligentes que les autres, sans test évidemment. Et qui dit plus intelligent dans leur concept flou confusionniste, c'est pour ça que je l'appelle confusionniste, qui dit plus intelligent dit surdoué, qui dit surdoué dit HPI, et qui dit HPI dit mythe sur les HPI et surdoués, avec toute la liste des pseudo-particularités proposées par le concept de zèbre sur lequel elles ont pioché et pompé allègrement. Et c'est là toute la force de leur discours, c'est qu'il est assez flou et trouble pour que leur public puisse véritablement tout mélanger. Et du fait même, et c'est important, qu'elles prétendent que leur public est foncièrement plus intelligent mais qu'on ne peut le prouver par un test de quotient intellectuel qui est une invention du diable, c'est la confusion totale. Bien sûr, il n'y a aucun lien dans leur concept avec le quotient intellectuel ni même avec une quelconque reconnaissance professionnelle ou académique. Il n'y a en vérité aucun lien entre les thèses qu'elles proposent et une quelconque intelligence, même si on la prenait dans un sens beaucoup plus large que seulement le quotient intellectuel. Par exemple, nous avons compris avec ce podcast que certaines personnes, et principalement aux États-Unis, avaient une vision plus large de la notion de surdoué, de douance ou de gifted en américain. Et donc, on pourrait être surdoué au piano, surdoué en pâtisserie, surdoué en peinture, mais dans toutes ces notions qui ne prennent pas en compte le quotient intellectuel, ce qui est essentiel, c'est qu'il doit y avoir une reconnaissance extérieure de votre don, soit de la société, soit de l'école, soit des professionnels, soit de son entourage. Par exemple, vous êtes un virtuose reconnu internationalement. Les gens font la queue devant votre pâtisserie. Vos tableaux sont exceptionnels. Personne ne dira « Ah, lui, c'est un pâtissier surdoué, il fait des cakes pourris, mais par contre, à chaque fois qu'il fait un cake, il pleure. » Il fait un cake nerveux, si je peux dire. Non, le pâtissier surdoué de Christelle et de Raymond, c'est un pâtissier qui pleure à chaque fois qu'il rate un cake et qui s'autoproclame surdoué incompris. Les personnes qui se reconnaissent suréfficients, surdoués, HPE, chez Christelle Petit-Collin comme chez Raymond Dazan, ce sont des personnes qui s'auto-diagnostiquent, s'auto-proclament surdouées sans que leur entourage ne s'en rende compte. Grâce au concept de Christelle Petit-Collin et de Raymond Dazan, elles se déclarent surdouées parce qu'elles sont en décalage, incomprises, parce que leurs émotions les submergent, parce qu'elles ne contrôlent pas leurs pensées, parce qu'elles ont des problèmes de communication ou de compréhension, en bref, parce qu'elles sont perdues.
Ce sont aussi, dans beaucoup de situations, des gens qui ont quelques troubles de la pensée et que la logique qui exprime la rhétorique du pervers narcissique les séduit énormément.
Et vous commencez à comprendre qu'il est relativement très facile que ces personnes complètement larguées dans la vie, ayant des difficultés psychologiques, puissent soit tomber dans les mains d'autres personnes qui profiteraient de leur faiblesse, soit tout simplement avoir des problèmes relationnels avec n'importe qui et avec tout le monde. Et conséquence, la plupart de ces personnes-là peuvent s'identifier facilement à des victimes de pervers narcissiques, puisqu'ils se font avoir par tout le monde et ils ont l'impression de se faire rabaisser partout. CQFD. La boucle est bouclée, parce que si on se réfère aux descriptions de Christelle Petit-Collin et de Raymond Dazan, si on est victime d'un pervers, eh bien c'est que l'on est surdoué. Et si on est surdoué, c'est que l'on est haut potentiel intellectuel, haut quotient intellectuel. Voilà comment Christelle Petit-Collin, et je suis désolé, je tiens à m'excuser auprès de Raymond Dazan, d'avoir si minimisé le rôle précurseur et néfaste de Christelle Petit-Collin dans l'invention des théories que Raymond Dazan a elle-même repris. C'était elle qui avait la première, avec le normopensant et le pervers narcissique, introduit la peur dans la notion de surdoué. Bien que Raymond Dazan ait ensuite introduit l'angoisse. Tout le reste a été brodé autour de leurs deux conceptions, qui sortent de nulle part. Et pour celles et ceux que j'entends déjà hurler « Oui, mais tu comprends pas, Christelle Petit-Collin et Raymond Dazan, elles parlent d'intelligence de l'émotion, de l'empathie, d'hypersensibilité et tout ça. » Eh bien non, malheureusement, elles n'en parlent pas non plus. Elles et les personnes qui les suivent, qui adoptent leur vision et leur thèse, elles confondent volontairement ou non le fait d'être submergées par ces émotions, de ne pas comprendre ces émotions ou celles des autres, d'avoir des dysrégulations émotionnelles, des crises ou des angoisses, comme cela peut arriver à des TDAH, des borderline, des anxieux, des dépressifs, d'avoir des hypersensorialités comme dans le trouble du spectre autistique. Tout ça n'a rien à voir avec une quelconque intelligence émotionnelle ou une quelconque possibilité d'être en empathie avec quelqu'un, c'est-à-dire pour aller super vite, comprendre l'autre sans en souffrir, ce qui est complètement différent que de souffrir avec l'autre, sachant que les spécialistes interrogés sur ce podcast m'ont souvent raconté que les personnes se pensant empathiques ou hyper empathique avait en réalité d'énormes difficultés à reconnaître véritablement les émotions des autres. Et vous l'avez compris si vous suivez ce podcast, avoir une pensée qui part dans tous les sens, trop penser, ou avoir une soi-disant donc pensée en arborescence, n'est pas non plus un signe d'intelligence comme nous l'avons vu, par exemple sur l'épisode sur la pensée en arborescence. C'est souvent, au contraire, le signe de rumination ou de dysfonctionnement, comme cela peut arriver dans plusieurs troubles ou pathologies, psychologiques ou psychiatriques encore une fois. Donc on est loin de surdouer de l'émotion ou de la sensibilité. On ne devient pas surdoué en souffrant. Tout ça, lorsqu'on le remet en perspective, on comprend que ce sont donc ces personnes fragiles qui sont décrites par Christelle Petit-Collin et par Raymond Dazan, et qui sont aussi décrites par ce bon vieil Alberto en parlant des potentielles victimes désignées des pervers narcissiques, et non pas les personnes intelligentes. Mais vous avez compris, que ce soit pour ces deux personnalités ou les personnes qui les croient, il est beaucoup plus sympa, beaucoup plus sexy, beaucoup plus engageant de désigner ou de se désigner comme surdoué, surefficient, que de se désigner comme personne ayant des troubles psychologiques. Le problème principal de toute cette manœuvre, vous le savez aussi, c'est l'éloignement des soins appropriés à ces personnes-là et l'errance psychologique ou médicale. Donc le pervers narcissique, il a peut-être certaines attirances, certaines proies qui sont plus faciles pour lui, mais ça n'est pas des surdoués, parce qu'elle ne parle pas de surdoués. J'espère que cet épisode vous aura apporté quelque chose. Et s'il vous a apporté quelque chose de la connaissance ou de la matière à penser, n'oubliez pas, s'il vous plaît, de faire les gestes qui aident pour ce podcast qui en a véritablement besoin. Et je vous en remercie intensément. Portez-vous bien, intensément. C'est le podcast Divergent, intensément, c'est le show potentiel. Show, show, show.
Où sont les surdoués ?
Où sont les surdoués ?
Les surdoués sont à moi.
Les surdoués sont à moi.